Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, Lille Info, comme chaque mercredi entre 16h et 16h30. Tangine, c'est le retour sur l'île 1. Et oui, il y a 2 ans, je pense, que cette opération avait déjà eu lieu. Et c'est une opération annuelle, mais qui se déplace selon les années d'une région à l'autre. Et nous avons le plaisir donc d'accueillir 3 personnes pour présenter ce week-end pratiquement de manifestations, de congrès. Donc on va faire un petit tour de table avec pourquoi pas François Rechter, donc qui est directeur de l'IREM.
Bonjour.
Bonjour. Valerio Vassallo, qui est maître de conférence et chargé de communication de l'UFR de mathématiques de Lille. Bonjour.
Bonjour.
Et Nicolas Van Lanker, donc, qui est enseignant et qui est au niveau national chargé aussi de ce projet.
Bonjour.
Bonjour. Donc voilà, on va dire matin de jean. Alors jean, c'est comme les jeans, hein, ça veut dire qu'on se détend un peu, c'est ça?
Oui, en fait, c'est un acronyme dont je ne connais pas bien la signification, mais c'est faire des mathématiques autrement en classe, faire de la recherche en collège ou en lycée, encadré par un chercheur de l'université.
Donc les mathématiques autrement, ça sous-entend une partie de plaisir aussi?
C'est le but, c'est faire des vraies mathématiques où il y a une place à l'imagination, où on peut prendre le temps de chercher, de trouver. On n'est pas pris par la sonnerie qui doit obligatoirement conclure l'exercice.
On cherche pendant combien de temps avant de participer à cet événement de la semaine prochaine?
Alors c'est souvent 1 heure par semaine, hein, pendant toute une année scolaire. Ce sont des élèves volontaires qui sont inscrits, qui ne sont pas notés, et c'est en plus de leur emploi du temps.
Des élèves de quelle classe?
Majoritairement en collège ou en lycée. Parfois en école primaire, mais c'est assez rare, et dans l'académie de Lille, il n'y en a pas. Et puis ensuite, chaque enseignant adapte en fonction de ses envies, et des élèves qu'il a en face de lui.
Donc cette opération était au départ nationale, elle déborde un peu là et elle se régionalise également.
Oui, c'est une opération nationale qui a 25 ans. On a maintenant plus de 2000 élèves au niveau de toute la France qui participent à l'action Matin de jean. Et on n'arrive pas à conclure cette action par un congrès réunissant ces 2000 élèves. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la fin de l'action Matin de jean, c'est un congrès qui réunit tout le monde. Et on est maintenant obligé de scinder les congrès en congrès régionaux. C'est pour ça qu'on sera sur l'île 1 la semaine prochaine.
François Rechter, comment on aborde les mathématiques avec ces jeunes, donc, qui ne sont pas à l'université, qui vont certainement y aller? D'ailleurs, c'est peut-être l'objectif de les intéresser, de les rendre curieux intellectuellement et notamment en mathématiques, vous qui êtes à l'IREM.
Eh bien, un des objectifs majeurs, effectivement, c'est à la fois d'inciter et de mettre en route des élèves sur le chemin d'une connaissance mathématique, et aussi de leur faire passer un message qu'on peut prendre plaisir à se questionner sur des problèmes qui sont effectivement posés par un chercheur, mais le problème posé est accessible. Ils ont une compréhension du problème. Après, à eux de chercher, de mettre en œuvre des choses pour avancer vers une solution. Certains problèmes posés n'ont d'ailleurs pas de solution connue. Néanmoins, ils sont capables, à leur niveau, avec leurs outils, d'affirmer des choses, de tenter des exemples ou de montrer des contre-exemples. Donc tout ça, ça permet de changer petit à petit et de façon durable l'image des mathématiques, aussi bien pour les jeunes que pour leurs parents, qui pense toujours que c'est quelque chose de très obscur et de très compliqué. Quand un jeune revient d'une séance matin de jean ou qui revient du congrès complètement boosté par cette rencontre d'autres jeunes qui ont aussi cette passion et aussi d'autres sujets très intéressants dont ils ont pu soit voir des posters, soit entendre un exposé, eh bien ils permettent justement de changer cette image des mathématiques dans leur collège et autour d'eux.
Alors, justement, par rapport à ses parents, alors on a bien compris que pour les élèves, il s'agissait de les mettre en route. Et pour les parents qui sont en déroute face aux mathématiques, est-ce que ça peut apporter des éclairages?
L'éclairage, il est, à mon avis, dans un premier temps, essentiellement un éclairage sur une image. L'image qu'on peut se faire des mathématiques. On voit ça aussi à l'IREM à travers le rallye mathématique des collèges, où quand les parents sont impliqués parce qu'on leur demande de venir arbitrer une épreuve ou de participer à ce rallye, ils se rendent compte à quel point leurs enfants sont motivés par la recherche d'une question, la recherche d'un problème, seul, à plusieurs. Donc ils sont complètement surpris de cette dynamique. Donc je pense que le premier pas, c'est justement de leur montrer que leurs jeunes, leurs enfants, sont capables d'avoir du plaisir et de s'engager sur quelque chose que eux ne comprennent pas.
Alors, quand on dit qu'ils ne comprennent pas, pour certains, peut-être qu'ils ont compris un peu des mathématiques à un certain moment et que là, ils sont peut-être soit dépassés, soit les mathématiques ont changé, c'est vrai ?
Je ne pense pas que sur les problèmes qu'on aborde dans Math Engine, il y ait des mathématiques évoluées qui auraient beaucoup changé. Je pense qu'il y a aussi le fait que la société véhicule certaines idées sur les mathématiques derrière lesquelles il est confortable peut-être de se réfugier et de dire plutôt que de se poser des questions et de se mettre en chemin, c'est-à-dire de ne pas avoir de certitude. De, par exemple, dire je vais engager tel calcul pour voir comment se passe cette situation, je vais faire un dessin un peu plus précis pour voir quelle est la configuration géométrique qu'il y a derrière tout ça. Donc c'est ce questionnement que peut-être en tant qu'adulte on oublie, on n'a pas tellement envie de prendre ce temps, de se poser, parce que comme Nicolas le disait, il y a le problème du temps qui est absolument important dans cette démarche. Et le temps de l'école n'est pas le temps de Math Engine.
Alors justement, ces parents, certains accompagnent leurs enfants, les élèves donc. On dit parfois aussi que les classes favorisées ou les enfants d'enseignants sont un peu favorisés parce que les parents sont quand même un peu au courant de ce qu'ils enseignent et c'est peut-être plus facile pour eux. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux autres parents ?
Mais je crois que c'est se laisser déjà... Alors, offrir la possibilité à leurs enfants de participer à ce genre d'opération, c'est aussi une incitation à cultiver un savoir en dehors de l'école, même s'il est fait dans le cadre de l'école, mais il est en dehors du temps scolaire prescrit. Et puis, c'est aussi d'avoir un esprit ouvert. Je pense qu'on peut pas... Effectivement, certaines personnes voient une importance théorique à faire des études, à se projeter dans un avenir, et pourquoi pas scientifique, parce qu'on a à une époque où les matières scientifiques tiennent un grand rôle, aussi bien dans les études que dans les emplois futurs qu'ils peuvent atteindre. La difficulté, c'est que les personnes qui ont peut-être pas cette culture-là s'interdisent peut-être cette ouverture. Certains l'ont peut-être intellectuellement et incitent leurs enfants à poursuivre ce chemin. Les autres, on peut simplement leur proposer de se laisser guider par les enseignants qui, à droite à gauche, montent ces équipes Math Engine et offrent beaucoup de leur temps pour mettre en route ces élèves.
Si je peux me permettre, il y a une chose qui est importante et qu'on essaie aussi d'amener aux élèves et peut-être aux parents, c'est que dans le cadre de la recherche Math Engine, dans le cadre du questionnement, les élèves trouvent des choses. Alors, on n'arrive peut-être pas au bout d'un an à résoudre le problème, mais ce n'est pas grave, ils ont trouvé des choses. Alors, un exemple, un contre-exemple, un petit bout de chemin, et c'est une vraie réussite. Et donc, on montre aux élèves que ne pas trouver tout ce qu'on demande, ce n'est pas grave, parce qu'on trouve des choses. Et quelque part, la recherche mathématique actuelle, je pense que les chercheurs ne trouvent pas toujours tout de suite tout ce qu'ils trouvent, mais on avance par étapes. Et puis, deuxièmement, on essaie d'amener aussi aux élèves une fierté. Et les mathématiques peuvent donc amener une fierté. Ils peuvent être contents d'eux, être fiers d'eux. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne trouve plus souvent dans l'enseignement de mathématiques actuel.
Valerio Vassallo, donc l'UFR de mathématiques, évidemment, est impliqué dans ce processus. Comment vous organisez les choses? Et on l'a dit, l'année dernière, ça ne s'est pas fait à Lille. Donc comment ça se passe, le fonctionnement de cette association, Math Engine?
Disons que ça fonctionne sur la base du volontariat des universitaires. Bon, les universitaires, alors, savent peut-être... peut-être on n'en fait pas assez la pub encore, ou on l'a fait, mais puis si vous voulez, souvent, c'est les mêmes enseignants-chercheurs qui animent, comme il le disait Nicolas, et ces ateliers de recherche. Alors, ce n'est pas un gros problème, sauf qu'au bout d'un moment, bon, il y a besoin de réchange, parce que, bon, évidemment, les mêmes enseignants-chercheurs pour des raisons différentes et variées, et n'est plus être en mesure de suivre des groupes, parce que c'est quand même un engagement. Maintenant, cet engagement, il est très variable. Hein. S'il y a des collègues qui écoutent Radio Campus en ce moment, ils savent qu'ils peuvent donner les problèmes et retourner la fois d'après, ou chaque fois, pratiquement chaque fois il y a l'atelier, ou laisser passer du temps, le temps qu'ils cherchent, et revenir après un mois ou deux. Mais bon, il y a tous les cas de figure dans ce cas-là. Donc il y a aussi des enseignants qui donnent des problèmes, ils reviennent vers la fin, disons un peu avant les congrès, pour voir un peu où ils en sont, les jeunes avec les recherches. Il n'y a pas de méthode, c'est basé sur la générosité des uns et des autres et sur cette envie aussi de faire sentir, un peu comme disaient mes collègues, hein, et qu'est-ce qu'effectivement peut-être est la nature des mathématiques, c'est-à-dire, enfin, ou tout au moins une facette de cette nature, c'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai, il y a des certitudes, et de l'autre côté, il y a des champs ouverts, et donc on ne rentre pas à la maison et on trouvera la réponse dans un livre, et il faudra chercher. Et c'est cet esprit-là que normalement on devrait communiquer à tous les niveaux, de l'école primaire jusqu'à l'université, aux enfants. Parce que la vraie vie, on n'a pas toujours quelqu'un qui va répondre à nos questions. Donc, se préparer à cet état d'esprit d'ouverture et de recherche et d'attente.
Voilà. Donc, on l'a dit, c'est un parcours pratiquement d'une année scolaire qui va aboutir là à 7 congrès en France. Hein. 7 congrès dans différentes régions. Et ici, à Lille, c'est aussi une ouverture sur la Belgique.
Oui, on a proposé cette année à 2 ateliers belges de la région de Bruxelles et un atelier luxembourgeois aussi, de nous rejoindre pour échanger, pour partager les idées. On est quand même voisins, frontaliers, et autant se rencontrer. Donc, ce ne sera pas simplement des nordistes. Hein. On sera à peu près, il y aura près de 250 élèves pendant ces 2 jours. L'UFR nous accueille avec Lila et c'est entièrement impliqué. Il y a quand même une grosse logistique à mettre en place. Pour restaurer tout ce monde-là, il faut libérer des amphis. Enfin, il y a quand même une implication de beaucoup de gens dans cette manifestation, et sans qui on n'aurait pas pu faire ça. Ça va quand même être énorme pour ces élèves de vivre 2 jours sur la fac.
Alors, on va préciser que ces 2 jours, c'est donc la semaine prochaine, vendredi et samedi, que c'est ouvert au public.
Tout à fait. Le vendredi et le samedi, à partir de 9h jusqu'à 17h, il y a des exposés d'élèves majoritairement. Et puis, il y a aussi 2 conférences de mathématiciens professionnels. Laetitia Jourdan, le vendredi matin à 9h15, qui parlera des liens entre la nature et l'informatique. Et le samedi à 14h, il y aura Ahmed Djebar, qui parlera des mathématiques arabes. Et donc ça, ce sont des conférences publiques, donc, comme tous les autres d'ailleurs, comme les exposés également.
Donc ça se passe au bâtiment de mathématiques, le M1, hein, il y en a plusieurs, ouais. Le M1, et il y a 2 amphis mobilisés.
Tout à fait, en parallèle.
D'accord, on va dire par niveau.
Il y a plus de collèges, donc il y aura plus d'exposés collèges, mais on aura souvent un amphi dans lequel il y aura des exposés d'élèves de collège, et puis un amphi dans lequel il y aura des exposés d'élèves de lycée.
Voilà, bien, donc on peut donner rendez-vous aux gens, hein, c'est ouvert au public, on l'a dit, il faut s'inscrire ?
Non, sauf si on veut venir avec une classe,
ah oui.
Parce que si on veut venir avec des scolaires, dans ce cas-là, on peut contacter l'IREM de Lille.
Oui, le secrétariat est mobilisé justement pour et à communiquer là-dessus envers les collèges de la métropole. La possibilité à des collègues professeurs de mathématiques d'amener une classe entière. Et donc, il suffit de contacter l'IREM directement qui se chargera de planifier la venue des élèves.
Par mail
Par mail ou par téléphone.
On a on peut donner l'adresse?
Oui, le mail, donc c'est irem@unif-lilin.fr. Et le téléphone, c'est le 03 20 43 41 82.
Voilà, donc on est dans la dernière ligne droite. Qu'est-ce qui va se passer en début de semaine prochaine pour vous? Comment ça se
Bien,
prépare
la semaine prochaine, c'est une grosse semaine, puisque le ministère en a fait la semaine des mathématiques. Donc, en quelque sorte, on vient de parler de la dernière grosse manifestation de cette semaine dans la région, qui est donc Matangine. La semaine prochaine, l'IREM est associé à d'autres projets pour faire vivre les mathématiques dans notre région. Et l'IREM sera partenaire de l'organisation d'une grosse étape du rallye mathématique des collèges, puisque nous serons à Liévin. Et on fera participer 400 collégiens à une manifestation tout le mercredi matin. Donc la semaine prochaine, c'est une semaine un petit peu spéciale, même si les mathématiques, on les travaille toutes les semaines. Mais le ministère a voulu mettre un coup de projecteur sur des activités qui incitent les jeunes à se tourner vers les mathématiques.
Oui, alors Nicolas Blanquer, on peut imaginer que l'année prochaine ou l'année d'après, on va dire la rotation amène cette opération vers d'autres universités de la région Nord-Pas-de-Calais.
Ah, ce serait très bien. Je pense que l'ILIN nous accueille cette année. On espère pouvoir aller ailleurs, à Valenciennes, sur le littoral, ou revenir à Lille, on verra. Mais il serait bien qu'on puisse circuler entre les différentes universités.
Donc ces congrès, ça peut être aussi un moment de négociation?
Je pense qu'il y a, les chercheurs qui sont impliqués dans Matangine sont aussi conscients qu'on va peut-être devoir aller ailleurs l'année prochaine et ont pleinement envie de nous accueillir le mieux possible.
Voilà, bien, si vous n'avez rien à rajouter, ce sera le mot de la fin, peut-être
un site, Matangine, ouais. Matangine.fr.
Alors Mat, normal.
M-A-T-H.
En EN, Jean, comme
avec un S.
Avec un S.
.fr.
Merci beaucoup, très bonne journée et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Merci.
Merci.
l'université Lille accueille à l'espace culture en ce moment, enfin très bientôt, là, le FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain, donc, qui présente des œuvres sélectionnées par le FRAC donc pendant une bonne période. C'est l'occasion de venir. Deuxième exposition actuellement en cours, il s'agit d'une exposition photographique acoustique qui s'appelle La peau que j'habite, une exposition réalisée par la Société photographique des universités de Lille. Si vous voulez comprendre l'univers du tatouage, pourquoi on se tatoue, eh bien, je vous propose d'aller faire un petit tour donc à l'espace culture, Université Lille 1. Vous verrez donc les photographies qui ont été sélectionnées, 41 photographies. Vous pourrez également écouter des sons, je vais vous en proposer hein, d'ailleurs dans quelques instants, des sons qui sont regroupés sur une page web. Donc je vais vous donner l'adresse de cette page et vous retrouverez tous les sons de cette exposition, enfin ceux qui sont prêts tout au moins, parce que c'est un work in progress. Qui va évoluer, une exposition qui va évoluer, qui va se compléter au fil du temps, on l'espère. Voilà, La peau que j'habite jusqu'au 15 avril à l'Université Lille 1 par la Société photographique des universités de Lille. Le site c'est www.onde.fr/la-peau-que-j'habite, tout ça collé. Voilà, vous en savez plus, mais encore maintenant, bien, je vous propose juste un tout petit extrait de quelqu'un qui va exprimer ce pourquoi il se tatoue, ce qu'il a fait à son corps, et voilà. Donc c'est intéressant, je pense, d'entendre ces témoignages. L'ensemble est sur l'adresse web dont je viens de vous parler, et n'hésitez pas à vous rendre, c'est ouvert hein, tous les jours de la semaine, sauf bien sûr le week-end. À l'Université Lille 1. Oui, le vendredi après-midi, c'est fermé également. Hein. C'est préparation, voilà, le week-end, et les personnes ne sont pas sur place.
D'où m'est venue l'idée du tatouage ? À la base, ça fait référence à une histoire que j'ai vécue avec une demoiselle à l'époque, forcément qui s'est mal passée vu que j'en parle au passé. Et ensuite, de cette histoire, à laquelle je trouvais quand même des beaux aspects, j'ai fini par l'adapter sous forme de conte. Je l'ai retranscrit dans un contexte médiéval fantastique. Et par la suite, en écrivant ce livre, en écrivant ce conte, j'ai eu des images qui me sont venues en tête. Et comme moi, ça faisait des années que j'avais envie de me tatouer, je me suis dit... Cette histoire que j'ai vécue, puis que j'ai réécrit sous forme de conte, c'est ce qui me définit le plus et c'est ce que j'ai envie de me mettre sur le corps. Parce que c'était plus qu'une simple personne, c'était une histoire, c'était quelque chose. D'où m'est venue l'idée du tatouage ? À la base, ça fait référence à une histoire que j'ai vécue avec une demoiselle à l'époque, forcément qui s'est mal passée vu que j'en parle au passé. Et ensuite, de cette histoire, à laquelle je trouvais quand même des beaux aspects, j'ai fini par l'adapter sous forme de conte. Je l'ai retranscrit dans un contexte médiéval fantastique. Et par la suite, en écrivant ce livre, en écrivant ce conte, j'ai eu des images qui me sont venues en tête. Et comme moi, ça faisait des années que j'avais envie de me tatouer, je me suis dit, cette histoire que j'ai vécue, puis que j'ai réécrit sous forme de conte, c'est ce qui me définit le plus et c'est ce que j'ai envie de me mettre sur le corps. Parce que c'était plus qu'une simple personne, c'était une histoire, c'était quelque chose. Donc le conte raconte l'histoire de Breton, qui est un jeune garçon, fils de paysan, qui se bat très bien à l'épée, dont le rêve est de devenir chevalier, mais qu'il ne deviendra jamais, car il est fils de paysan, et par rapport à ça, il n'a pas vraiment de but dans la vie, il finit par vivre des aventures à droite, à gauche, aller au loin, jusqu'à... À une époque, finir par faire quelques passes d'armes, puis quelques joutes, puis quelques tournois, et lors de l'un d'eux, il arrive en finale, et en fait, au moment de la finale, décide de dédier sa future victoire à une jeune noble qui est dans le public, et qui est accompagnée. Puis il fait son combat, il le gagne, remporte le tournoi, et en fait, le lendemain, au moment de récupérer le grand prix devant tout le public, bah, il s'avère qu'il ne se présente pas, parce qu'il est parti avec la fameuse dame à qui il a dédié sa victoire la veille. Donc en fait, dans l'histoire, Breton, qui commençait à avoir une existence par le combat sur le chevalier, part dans le pays de la demoiselle, puis s'installe avec elle, et en fait, le temps allant, en fait, il commence à se lasser, non pas de son histoire avec de la demoiselle, mais de son mode de vie. C'est à force de ne pas avoir de but, il avait occupé sa vie en faisant des choses à droite, à gauche, des coups d'éclat, quelques coups beaucoup fumé. Et en fait, en allant s'installer avec cette dame qui laisse ses luites, qui l'a conquise, il se retrouve à mettre son épée de côté pour essayer de simplement vivre avec et plutôt prendre une fourche, travailler. Et là aussi, là où il aurait voulu devenir chevalier, ses espoirs contredits et ses frustrations commencent à rentrer en conflit. Au point qu'il commence à mal vivre sa vie, à sombrer dans la dépression et ne même plus vouloir prendre son épée alors que c'est elle qui définissait. Et aussi également ne même plus se battre pour sa dame, qu'il est pourtant allé chercher. Au point qu'un jour, alors qu'elle lui demande d'aller la représenter pour un tournoi, il refuse de reprendre son épée. Elle y part déçue et quand, 3 jours plus tard, Wouter décide finalement d'aller faire ce tournoi, quand il se présente aux inscriptions pour la joute, il découvre que la dame a un nouveau champion qui a dédié sa victoire à la demoiselle comme lui l'avait fait plus tôt. C'est un passage qui est assez court dans le livre, mais c'est ça qui est le moteur du reste. C'est que bien des années plus tard, Brother revient dans son pays d'origine et il n'a pas fait grand-chose de sa vie. Alors oui, il fait des mauvais tours aux gardes, il fait des coups d'éclat, il continue à gagner des tournois ici et là, mais a une réputation plutôt mauvaise. C'est un gentil mauvais garçon. Mais il ne se trouve pas de but dans la vie et pour lui, il sait que ses rêves de chevalerie, c'est fini, c'est oublié, il pourra jamais l'être.